RFI, 7h30, à Paris, 6h30 en temps universel. Et le journal avec Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Et la une ce matin, les violences contre les femmes, toujours bien trop nombreuses. Ce 25 novembre marque la journée internationale consacrée à leur élimination. Et nous irons pour comprendre l'urgence dans l'est de la RDC. Un reportage dans un camp de déplacés. Des marchands d'illusions qui sacrifient une jeunesse abandonnée en RDC, justement. Les mots acerbes de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridola Ambongo, tacle sévèrement le projet de révision de la Constitution. Vous l'entendrez. Le drame de la guerre au Soudan. RFI vous propose une journée spéciale sur ce conflit et ses conséquences. Un reportage notamment sur les cimetières de Khartoum, dans quelques instants complètement saturés. Et puis la lutte contre la pollution. Pollution de l'air tout d'abord, qui entraîne de nombreux problèmes respiratoires chez les enfants de Madagascar. Et pollution plastique, à l'heure où les négociations doivent reprendre à Busan, en Corée du Sud, pour limiter la production. 52 700, ce chiffre saisissant tout d'abord, 52 700, selon les Nations Unies, c'est le nombre de femmes victimes de violences sexuelles depuis le début de l'année dans l'est de la RDC. Une région qui illustre tristement l'importance de cette journée internationale du 25 novembre, consacrée donc à l'élimination des violences à l'égard des femmes. Pour le comprendre, direction le Nord Kivu, où certaines vivent l'enfer du viol après avoir fui la guerre. C'est le cas dans certains camps de déplacés, comme dans celui de Roussayo, à l'ouest du chef-lieu provincial Goma, où s'est rendu notre correspondant héritier Baraka.
Dans le cas de Roussayo, les déplacés vivent dans des tentes à Lambo. Ici, nombreuses sont les femmes agressées dans les champs voisins, les parcs ou même dans l'enceinte du camp. Habillée de noir, les pieds dans la boue, Rebecca, une jeune femme de 30 ans, a été violée par un homme armé.
Quand nous allons chercher le bois de chauffage, chacune prend son chemin. Là, je suis passée, j'ai eu un problème. J'ai rencontré un militaire que je ne connaissais pas. Il m'a demandé de choisir entre me tuer ou me violer. En voulant m'échapper, il m'a blessée à la main avec un couteau.
Mouisa a été violée alors qu'elle allait chercher des bois de chauffage. Par peur des représailles, elle hésite toujours à dénoncer son bourreau.
Quand je suis revenue au camp, je ne savais pas quoi faire. J'attends que l'on m'aide avec des médicaments, que l'on me conseille, car il m'a peut-être transmis des maladies ou je suis peut-être enceinte.
Pour Maître Liliane Moseka, membre de la dynamique des femmes juristes, une organisation qui soutient les victimes, il faut en finir avec l'impunité.
On a des femmes qui sont violées. Violentée plus d'une fois, même une semaine. Il y a plusieurs acteurs qui sont cités comme des éléments en uniforme. On dit que ce sont des cas qui restent impunis.
Entre janvier et mai 2024, Médecins sans frontières affirme avoir pris en charge plus de 17 000 victimes de violences sexuelles dans la province du Nord Kivu. Des retours des cas de déplacés de Roussayo, héritier Baraka, Goma, RFI.
La RDC, le Nord Kivu, où la première ministre Judith Suminwa a d'ailleurs effectué une bref mission d'évaluation de l'état de siège qui est en vigueur depuis 3 ans dans la province, comme dans la province voisine de l'Ituri, où la chef du gouvernement s'est rendue également. Bounia après Goma, visite débutée vendredi, refermée ce week-end, à l'heure où la polémique court toujours en RDC sur une éventuelle modification de la Constitution, souhaitée par le président Tshisekedi, mais critiquée par l'opposition et une partie de la société civile, à l'image de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridola Ambongo, s'est exprimé hier lors des journées diocésaines des jeunes organisées dans la capitale Kinshasa. Et il ne mâche pas ses mots, accusant des marchands d'illusions de sacrifier une jeunesse abandonnée. Je vous propose de l'écouter.
Comment comprendre que l'on passe du temps et que l'on dépense de l'énergie et même dépenser de l'argent à parler de l'opportunité ou pas du changement ou de la révision de la Constitution au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée? Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner du travail à la fin de nos études, qui va nous permettre de quitter Massina et arriver à Gombe à temps, sans embouteillage à Kinshasa? Tout ce temps qu'on perd, cette énergie autour des changements constitutionnels n'est qu'une distraction. Ne vous laissez donc pas tromper, ne cédez pas aux fausses promesses, ni aux marchands des illusions.
Les tacles du cardinal Fridolin Mbogo et ce débat sur la révision constitutionnelle en RDC. On en parlera également après le journal avec notre invité Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, qui présidait l'Assemblée nationale quand la constitution actuelle a été promulguée en 2006. Et puis appel sur l'actualité, il reviendra également sur ce dossier avec Nathalie Amar à partir de 8h10 en temps universel. Une journée spéciale sur la radio du Monde. Nous vous donnerons à entendre différents reportages sur les conséquences de la guerre au Soudan. Conflit qui dure depuis 19 mois au prix de très lourdes violences pour les civils. L'ONU parle de 25 000 morts, mais le chiffre est probablement très sous-estimé tant le système de santé s'est écroulé. Certains observateurs évoquent pas moins de 150 000 victimes. Une chose est sûre en tout cas, selon plusieurs enquêtes menées notamment grâce à des images satellites, dans la capitale Khartoum, tous les cimetières sont pleins. Des fosses communes ont été creusées, des corps enterrés à même les maisons. Sur place, notre envoyé spécial, Elliot Brachet, a pu accéder de façon exceptionnelle aux zones contrôlées par l'armée régulière, notamment aux abords du cimetière Ahmad Sharfi à Omdurman, dans la banlieue ouest de Khartoum.
Dans le crépuscule, des hommes armés de pioches creusent des tombes. Oussama est venu enterrer son voisin, un menuisier, tué ce matin dans un quartier résidentiel, cible des mortiers des forces de soutien rapide.
Depuis ce matin, ça n'arrête pas. Au moins 7 obus sont tombés. Des enfants et des femmes ont été blessés. Mon voisin était en train de dormir sur un lit, l'obus lui est tombé dessus. Le lit était pulvérisé et son corps démembré. On a dû ramasser morceau par morceau.
Les funérailles s'enchaînent. Le doyen des fossoyeurs, Abedine Dirma, ne les compte plus.
On se retrouve à l'extérieur du cimetière. À l'intérieur, il n'y a plus de place. Alors on est venu creuser là, sur ce terrain vague. Ici, les jeunes venaient jouer au foot. Maintenant, il est couvert de tombes. Ces derniers jours, on enterre de plus en plus de morts tués par des tirs d'artillerie. Aujourd'hui, on creuse depuis la prière du matin. C'est tous les jours comme ça. On fait entre 15, 20, 30 enterrements quotidiens. On ne dort plus, de jour comme de nuit.
À cause des combats qui compliquent les déplacements, la plupart des morts ne passent ni à l'hôpital, ni à la morgue.
Quand il y a des batailles, des combats, les morts sont enterrés là où ils ont été tués. Les gens creusent à la va-vite pour ne pas que les cadavres pourrissent et répandent des maladies. Il y en a des tonnes, c'est impossible de compter. Les places, les maisons sont remplies de corps.
À l'extérieur du cimetière, d'autres familles attendent leur tour. Au loin, les combats font rage pour le contrôle de la capitale. Elliot Marché, Khartoum, RFI.
Le Soudan et sa guerre, auquel RFI consacre donc une journée spéciale aujourd'hui. Vous retrouverez justement Elliot Braché en direct dans le journal de 8h dans un petit peu plus de 22 minutes. Ça, vous pouvez le retrouver en ligne dès aujourd'hui sur RFI.fr ou sur nos applications mobiles. Les 4 premiers épisodes de notre série Enquête africaine sur le massacre de Tiaroy au Sénégal. C'était le 1er décembre 1944 lorsque les tirailleurs de retour de la Seconde Guerre mondiale étaient abattus sur ordre d'officiers français. 80 ans après, à l'approche des commémorations qui seront organisées au Sénégal, un ancien président français s'exprime sur RFI. François Hollande, aujourd'hui député, il était au pouvoir en 2014 lorsqu'il avait évoqué pour le 70e anniversaire de ces événements de Tiaroy une répression sanglante. Aujourd'hui, il va plus loin et parle bel et bien d'un massacre.
C'est une répression sanglante parce que il y a un acte qui est celui d'une revendication légitime d'ailleurs des tirailleurs sénégalais qui demandent d'avoir le versement de leur solde. La manifestation, elle dégénère et il y a une répression qui est sanglante. En fait, oui, c'est un massacre puisque ce n'est pas simplement une répression comme on en connaît dans des manifestations qui débordent. Là, il s'agit d'un massacre à la mitrailleuse. Les mots doivent être mis là où ils sont nécessaires et là où ils correspondent à une réalité, c'est-à-dire il y a eu un massacre à Tiaroy.
Mais à ce moment-là, vous n'utilisez pas ces mots-là.
C'est déjà beaucoup, hein, répression sanglante. C'est pas un ordre qui a été donné forcément en haut lieu, mais les chefs militaires sur place, c'est ceux qui ont donné l'ordre, ou en tout cas, voilà, ont commis l'irréparable.
François Hollande sur le massacre de Tiaroy, il répondait à Charlie Dupiot, qui a donc réalisé notre série d'enquêtes africaines sur ce drame. Alors que la COP29 s'est officiellement refermée en Azerbaïdjan, on ouvre maintenant une page dédiée aux problématiques environnementales. Direction tout d'abord Madagascar, où les enfants sont les premières victimes de la pollution de l'air. Pollution qui connaît des pics en cette période de l'année dans la capitale, Antananarivo, encore ce week-end, malgré l'arrivée des premières pluies. Une mauvaise qualité de l'air qui entraîne de nombreux problèmes respiratoires pour les plus jeunes. Reportage Guilhem Fabry.
Avec un taux de particules fines dans l'air 4 à 6 fois supérieur au seuil recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé, la qualité de l'air est restée malsaine pour tout le monde ce week-end à Antananarivo. Jennifer a dû consulter un pédiatre pour son fils de 10 mois.
En fait, il avait beaucoup toussé, il avait le rhume aussi. Et lorsqu'on était arrivé au pédiatre, il a dit qu'il avait un problème respiratoire. Il lui a prescrit des sirops. Il y avait aussi le kiné pour faire sortir tout ce qui est de la saleté. Il faut lui protéger de la pollution. Il faut qu'il reste à l'abri, en fait, dans un endroit paisible, calme, avec de l'air pur.
Au centre pédiatrique Massou, où elle s'est rendue, le docteur Mami Razafi Mandimbi reçoit jusqu'à 12 enfants quotidiennement pour des problèmes de santé liés à la pollution.
Ces derniers jours, il y a une grande recrudescence des difficultés respiratoires chez le nouveau-né, chez les nourrissons et même chez les enfants. C'est l'accentuation des toux, des difficultés respiratoires qui fait que les poumons s'infectent et qui entraîne la fièvre persistante nécessitant des antibiotiques. Et chaque jour, il y a au moins un ou bien deux ou bien trois bébés qui sont confrontés à une hospitalisation même face à la difficulté respiratoire ou seulement à la fièvre qui est mal tolérée.
Selon Météo Madagascar, les pluies tombées ces derniers jours pourraient améliorer la qualité de l'air. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Autre problématique, la pollution plastique. Avec près de 353 millions de tonnes produites chaque année sur Terre selon l'OCDE, source importante de pollution. Voilà le cadre global pour les négociations attendues en Corée du Sud, à Busan. Cinquième et dernière réunion pour les 175 pays engagés dans des négociations depuis 2 ans. L'objectif, un traité contraignant pour limiter la production de plastique. Mais le sujet ne fait pas consensus, Simon Rosé.
À l'image des discussions qui viennent de s'achever lors de la COP29 sur le climat, les négociations qui s'ouvrent à Busan s'annoncent compliquées et à l'issue incertaine, tant les positions des 176 pays présents apparaissent opposées. Il y a les tenants d'une approche ambitieuse, une vaste majorité des États africains et européens. Pour eux, on n'arrivera à rien si on ne ferme pas le robinet en limitant la production toujours plus importante de plastique. Un avis que les États-Unis avaient fini par adopter avant de reculer à la suite de l'élection de Donald Trump. Le pays, premier producteur mondial de déchets plastiques, ne voit plus comment cette position pourrait permettre l'obtention d'un accord. Car un autre bloc de pays ne veut pas entendre parler d'une telle restriction de la production. Les géants pétroliers du Golfe, quelques producteurs africains comme l'Algérie, mais également la Russie, voient en effet dans le plastique un débouché pour leur industrie pétrochimique attaquée à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce bloc met ainsi en avant le seul recyclage pour mettre fin à la pollution, alors qu'aujourd'hui, seuls 9% des plastiques sont réutilisés. Ce sont 2 ans de négociations qui doivent trouver une conclusion cette semaine, mais sans aucune garantie de succès.
Et sur ce fléau de la pollution plastique, justement, Simon Rosé, illustration tout de suite en RDC, avec les déchets jetés dans les caniveaux de Bukavu, le chef-lieu du Sud Kivu. Déchets qui finissent leur course dans le lac Kivu, jusqu'au barrage appelé Ruzizi 2, érigé sur la rivière du même nom. Or, en s'amoncelant, ces déchets bloquent et endommagent les machines. Conséquence, le barrage perd de sa capacité de production. William Bassimike l'a constaté sur place.
Dans une pirogue, Biumanine Mubalama, employé de nettoyage du barrage Ruzizi 2, circule sous le barrage pour ramasser les bouteilles, sachets et autres assiettes en plastique.
C'est étonnant de constater que les habitants de Bukavu, comme ceux de Goma, jettent leurs déchets dans le lac Kivu et qu'ensuite ils se plaignent de ne pas avoir assez d'électricité. Pourtant, ils sont à la base du problème.
À la SNEL, on explique que les déchets plastiques obstruent l'arrivée d'eau. L'ingénieur Christian Sanvoura est le chargé du bureau technique à la centrale hydroélectrique. L'impact du plastique sur la production du courant est un problème important.
N'ayant plus d'eau, les machines ne savent plus être turbinées à plein régime et nous sommes obligés d'arrêter pratiquement la production pour dégager ces déchets. Et cela fait que nous perdons en rendement et même en production. Donc nous avons une capacité de 29 mégawatts, mais nous sommes obligés de produire en moyenne autour de 20 mégawatts.
Pour la SNEL Sud Kivu, il est essentiel que les populations prennent conscience de l'enjeu des déchets et qu'un engagement politique soit mis en place pour réduire l'importation des bouteilles en plastique. William Bassimike, Bukavu, RFI.
Bukavu, où il est bientôt 8h44, on retrouve Julien Coquel-Rohem pour RFI Matin.